Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur la clé des ondes.fr.
Un moment de littérature émancipatrice. Bonjour à toutes et tous, bienvenue en cette troisième émission d'un moment de littérature émancipatrice consacré à la littérature de combat.
Nous vous proposons aujourd'hui un court roman de Toni Morrison, Homme, paru en 2012 aux éditions Random House et la même année aux éditions Christian Bourgois pour sa traduction française, assurée par Christine Laferrière. Dernier roman de Toni Morrison, Homme, à la fois roman, nouvelle ou allégorie, compte une partie de l'histoire de Franck, soldat noir revenu de Corée dans un pays ravagé par l'exclusion, la ségrégation et la solitude, et de sa sœur, Si.
Résumé. Frank Money, soldat noir, brisé par la guerre de Corée, rejoint à Atlanta, dans les années 1950, sa jeune sœur, Si, cobaye d'un médecin blanc pour regagner Lotus, en Géorgie, la ville de son enfance, présentée comme le pire endroit du monde.
Alors on sait que Toni Morrison est une voix très singulière aux États-Unis, la voix des Afro-Américains, la voix des opprimés. Et cette voix-là, est-elle également présente dans Home ?
Parfaitement, car l'écriture de Toni Morrison ne pourrait sans doute pas être ce qu'elle est, sans cet engagement, même si la particularité de Home, c'est que la dénonciation du fait racial aux États-Unis suinte, transpire dans le récit, car elle est plus souvent décrite de façon implicite qu'explicite. Alors que dans son roman le plus connu, Beloved, par exemple, la fiction épouse beaucoup plus étroitement la réalité.
Extrait 1. Où les Noirs doivent évacuer. Mieux que la plupart, Franck savait qu'il n'était pas nécessaire d'être à l'extérieur pour qu'il y ait répression, légale ou illégale. Vous pouviez être à l'intérieur, vivre dans votre propre maison depuis des années, et des hommes, avec ou sans insigne, mais toujours armés d'un pistolet, pouvaient tout de même vous forcer, vous, votre famille, vos voisins, à plier bagages et déménager avec ou sans chaussures. 20 ans plus tôt, à l'âge de 40 ans, il en avait eu une paire, même si la semelle de l'une claquait à chaque pas. Les habitants de 15 maisons avaient reçu pour ordre d'abandonner leur petit quartier en bordure de la ville. 24 heures, leur avait-on dit. Autrement. Autrement, signifiant « vous mourrez ». Comme les mises en garde étaient parvenues en début de matinée, le reste de la journée s'était réparti entre désarroi, colère et bagages. Vers le crépuscule, la plupart s'éloignaient, dans des véhicules, s'ils en disposaient, sinon à pied. Pourtant, malgré les menaces proférées par des individus à la fois avec et sans cagoule, et malgré les supplications des voisins, un homme d'un certain âge, dénommé Crawford, était resté assis sur les marches de la galerie, devant sa maison, refusant d'évacuer les lieux. Les coudes sur les genoux, mains croisées, il avait attendu toute la nuit en chiquant du tabac. Juste après l'aube, passé la 24e heure, il fut battu à mort. À coups de tuyaux et de crosses de fusil, puis ligoté au plus vieux magnolia du comté, celui qui poussait dans son propre jardin. Peut-être le fait même d'aimer cet arbre, dont il se vantait qu'il avait été planté par sa grand-mère, l'avait-il rendu si opiniâtre ? Au cœur de la nuit, certains de ses voisins, qui s'étaient enfuis, revinrent en douce le détacher et l'enterrer au pied de son bien-aimé Magnolia. L'un des fossoyeurs dit à qui voulait l'entendre que M. Crawford avait eu les yeux arrachés.
Extrait 2, où Frank prend l'autocar. 17 dollars, dit Locke, c'est plus qu'assez pour un billet d'autocar jusqu'à Portland et continuer ensuite vers quelque part près de Chicago. Certes, ça ne vous emmènera sûrement pas jusqu'en Géorgie, mais quand vous arriverez à Portland, voici ce que vous allez faire. Il recommanda à Frank de contacter le révérend Jesse Ménard, pasteur d'une église baptiste, et ajouta qu'il l'appellerait à l'avance pour lui dire d'en guetter un autre. Un autre ? Bien, vous n'êtes pas le premier, loin de là. Une armée où les Noirs ont été intégrés, c'est le malheur intégré. Vous allez tous au combat ? Vous rentrez ? On vous traite comme des chiens. Enfin, presque. Les chiens, on les traite mieux. Frank le regarda fixement, mais ne dit rien. L'armée ne l'avait pas si maltraité que ça, ce n'était pas sa faute, s'il lui arrivait de devenir cinglé. En fait, lors de la démobilisation, les médecins avaient été gentils et prévenants. Ils lui avaient dit que sa folie finirait par passer. Surtout éviter l'alcool, avait-il ajouté. Ce qu'il n'avait pas fait, pas pu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Lily. Locke tendit à Franc un rabat qu'il avait déchiré d'une enveloppe et sur lequel figurait l'adresse de Ménard, en lui disant que Ménard avait une grande congrégation et qu'il pourrait lui fournir plus d'aide que son petit troupeau à lui. Jean avait emballé 6 sandwiches, certains au fromage, d'autres à la saucisse de bœuf et de porc, et 3 oranges dans un sac en papier. Elle lui tendit, ainsi qu'un bonnet de laine. Frank coiffa le bonnet et tout en regardant à l'intérieur du sac demanda « Le trajet dure combien de temps ?»« Peu importe, répondit Locke, vous serez reconnaissant de chaque bouchée puisque vous ne pourrez pas vous asseoir au comptoir d'aucun arrêt. Écoutez-moi bien, vous venez de Géorgie, vous avez été dans une armée où la ségrégation a été abolie et vous vous imaginez peut-être que le Nord n'a rien à voir avec le Sud ? N'allez pas croire ça. » Et n'y comptez pas. La coutume est aussi réelle que la loi et peut-être tout aussi dangereuse. Venez maintenant, je vais vous conduire.
Extrait 3, un quartier inaccessible. Elle avait entouré une petite annonce pour une charmante demeure à 5 000 $. Et même si cette adresse était loin de la blanchisserie où elle travaillait, elle ferait volontiers le trajet depuis un si joli quartier. Les regards insistants qu'elle s'était attirés en s'y promenant ne l'inquiétaient pas, puisqu'elle savait le soin avec lequel elle était vêtue et la perfection de ses cheveux lissés. Pour finir, après quelques promenades l'après-midi, elle avait consulté un agent immobilier. Quand elle eut décrit son objectif et les 2 ou 3 maisons à vendre qu'elle avait trouvées, l'agent sourit et répondit « Je suis vraiment désolé. » « Elles sont déjà vendues ?» demanda Lily. La dame baissa les yeux, puis résolut de ne pas mentir. « Eh bien non, mais il y a des restrictions. »« Sur quoi ?» La dame soupira. À l'évidence, peu désireuse d'avoir cette conversation, elle souleva son buvard et sortit des feuilles agrafées. Elle tourna une page et montra à Lily un passage souligné. Lily suivit de l'index les lignes en caractères d'imprimerie. Aucun des biens transmis par le présent acte ne devra jamais être utilisé ni occupé par aucun Israélite, ni aucun individu de race éthiopienne, malaise, ni asiatique, à l'unique exception des employés de maison. J'ai des locations et des appartements dans d'autres quartiers de la ville. Voudriez-vous ? Merci bien, répondit Lily. Elle leva le menton et quitta l'agence aussi vite que lui permettait sa fierté.
Il n'y a donc pas de référence historique au sujet de la condition des Noirs.
Eh bien si, parce que le récit en fait est toujours ancré dans la réalité. On apprend par exemple que les Noirs, qui subissent toujours la ségrégation, qu'on fait les lois dites Jim Crow, ce qui se passe dans la police ou dans l'éducation, elles sont effectives dans les États du Sud jusqu'en 1965. Ont été jugés cependant bons pour combattre dans les guerres colonialistes comme en Corée ou encore de l'existence de la Negro Motorist Green Book.
Rappelons que cet ouvrage est une sorte de guide touristique, édité de 1936 à 1966, et qui informe des lieux d'hébergement et de restauration, même les toilettes dans Home, qui sont autorisées aux Noirs. Un film est sorti qui s'appelle Green Book, de Peter Farrelly. Green Book sur les routes du Sud, à ce sujet.
Voilà, et puis de la même façon, il en est de même pour le cadre du récit qui demeure réaliste et historique. Le roman prend pour toile de fond une Amérique encore très ancrée dans la ségrégation, où les personnages sont constamment confrontés à leur condition de noir dans une Amérique blanche.
Extrait 4, banale violence 1.
Ain't no use, baby. You're too doggone me.
Il s'éveilla au bruit des sanglots d'une jeune femme que consolaient des serveurs en veste blanche. L'un d'eux cala un oreiller derrière sa tête, un autre lui donna une pile de serviettes en lin pour essuyer ses larmes et le sang qui coulait du nez. À côté d'elle, le regard détourné, se trouvait son mari qui rageait en silence. Son visage, une tête de mort. La honte et sa compagne, l'inflexible colère. Quand passa un serveur, Franck lui toucha le bras en lui demandant « Qu'est-ce qui est arrivé ?» Il désigna le couple. « Vous n'avez pas vu ça ?»« Non, qu'est-ce que c'était ?»« Il y a le mari. Il est descendu à Elko se payer un café ou quelque chose là-bas, » dit-il en agitant le pouce par-dessus son épaule. Le patron, ou les clients, ou bien les deux, l'ont fichu dehors à coups de pied. Vraiment, lui ont botté le cul, l'ont flanqué par terre, lui ont remis des coups de pied, et quand sa femme est venue lui porter secours, elle a pris une pierre dans la figure. On les a fait remonter en voiture, mais la foule a continué à hurler jusqu'à ce qu'on démarre. « Regardez, dit-il, vous voyez ça ?» Il montra du doigt des jeunes d'eux, qui dégoulinait plus, mais qui collait à la vitre comme du flegme. « Quelqu'un l'a signalé au contrôleur ?» lui demanda Franck. « Vous êtes fou ?»« Probablement, » répondit Franck.
« Daddy, why complain ?»« It's all over. »
Extrait 5, banale violence suit. Auparavant, quand Billy avait présenté son fils à Franck, le garçon avait levé le bras gauche pour lui serrer la main. Franck avait remarqué que le droit pendait mollement sur le côté. À présent, tout en battant les cartes, il demanda à Billy ce qui était arrivé au bras de son fils. Billy plaça ses mains en position de tir. Un flic en voiture, dit-il. Le petit avait un pistolet à morse, 8 ans. Il courait d'un bout à l'autre du trottoir en pointant son jouet. Un pequeno mal dégrossi trouvait que les autres flics sous-estimaient sa bite. « Tu ne peux pas tirer sur un gamin comme ça, » dit Franck. « Les flics tirent sur tout ce qu'ils veulent. Ici, c'est une ville à émeute. Harlène est devenue un peu dingue dans la salle des urgences. 2 fois, ils l'ont jeté dehors. Mais en fin de compte, ça s'est bien terminé. Le bras amoché l'a maintenu à l'écart des rues et en classe. » C'est un génie des maths. Gagne concours sur concours. Les bourses pleuvent. Donc le jeune flic lui a rendu service. Non. C'est Jésus qui est intervenu pour faire ça. Il a dit, attendez, monsieur l'agent, ne faites pas de mal à ce petit. Celui qui blesse un de ces petits trouble ma tranquillité d'esprit. Joli, se dit Franck. Un peu de Bible, ça marche à tous les coups et dans tous les endroits. Sauf la zone de tir.
You done had your fun. It's all over and done. Now I gotta run. You don't have your phone. Ain't no use. Ain't no use. Ain't no use, Daddy. Ain't no use.
En quoi le parcours de Toni Morrison est-il proche des personnages de Home comme de ses autres romans ?
Eh bien, parce que comme Franck et Si, ces deux personnages, Toni Morrison est noire. Elle est née dans une famille modeste et ses grands-parents étaient métayers. Ils ont fui la Géorgie, état où se déroule une partie de l'action de Homme. Cependant, dans Homme, il y a cette singularité d'écriture qui fait de ce très court roman une espèce de poème en prose ou de parabole épurée et violemment poétique, avec de nombreuses ellipses et à deux voix qui entremêlent deux histoires étranges et dérangeantes. D'une part, celle rédigée à la première personne de Franck, ancien vétéran de la guerre, hanté par l'assassinat d'une petite fille, et d'autre part, celle rédigée à la troisième personne de sa petite sœur, Si, une jeune femme qui, tout au long de son existence, subit d'innombrables maltraitances.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine.
Extrait 6, où Franck se croit fou. Toute la couleur disparut et le monde devint un écran de cinéma en noir et blanc. Il ne hurla pas à ce moment-là car il croyait qu'il lui arrivait aux yeux quelque chose de grave. De grave, mais non d'incurable. Il se demanda si c'était ainsi que les chiens, les chats ou les loups percevaient le monde, ou bien devenait-il aveugle aux couleurs ? À l'arrêt suivant, il descendit, puis se dirigea vers une station d'essence Chevron, dont le V lançait des flammes noires. Il voulait entrer dans les toilettes, uriner et regarder dans le miroir s'il n'avait pas une infection à l'œil. Mais l'inscription sur la porte l'arrêta. Il se soulagea dans les arbustes derrière la station d'essence, contrarié et un peu effrayé par le paysage dénué de couleurs. Le car était sur le point de redémarrer, mais attendit le temps qu'il remonte. Il descendit au dernier arrêt, à la gare routière de la ville même, où il avait débarqué et vu des lycéennes accueillir en chantant les anciens combattants fatigués de la guerre. Dans la rue, devant la gare routière, le soleil lui faisait mal. Sa lumière malveillante l'incita à chercher de l'ombre. Et c'est là, sous un chêne du nord, que l'herbe redevint verte. Soulagé, il savait qu'il ne crierait pas, ne fracasserait rien, ni n'aborderait d'inconnus. Cela vint plus tard, lorsque explosèrent la honte de Franck et la furie du monde, quelle que soit sa palette. À présent, si les signes d'évanouissement de la couleur le prévenaient, il aurait le temps de filer se cacher. Ainsi, chaque fois que revint une teinte dans le paysage, il fut content de savoir qu'il ne devenait pas aveugle aux couleurs et que les images horribles pouvaient disparaître.
Extrait 7.
Brown baby.
Une enfant dans la guerre.
Brown baby. As you grow up.
Ensuite, j'ai vu les bambous s'écarter tout près du sol. Un chien peut-être ? Non, c'était une main d'enfant qui était passée et tâtait le sol. Je me souviens d'avoir souri. Je n'ai même pas essayé de chasser la fille cette première fois, donc elle est revenue pratiquement tous les jours en se frayant un chemin à travers les bambous pour fouiller dans nos ordures. Je n'ai vu son visage qu'une seule fois. La plupart du temps, je regardais juste sa main remuer entre les tiges pour tripoter les déchets. Chacune de ces apparitions était aussi bienvenue que le spectacle d'un oiseau qui nourrissait ses petits ou d'une poule qui grattait la terre pour atteindre le ver dont elle savait qu'il était enfoui à cet endroit. Parfois, sa main réussissait tout de suite et attrapait un détritus en rien de temps. À d'autres moments, les doigts ne faisaient que se tendre, tâtonner, chercher quelque chose, n'importe quoi à manger. comme une minuscule étoile de mer, gauchère comme moi. J'ai vu des ratons laveurs plus difficiles quand ils raflaient des conserves jetées aux ordures. Elle ne chipotait pas. Tout ce qui n'était pas du métal, du verre ou du papier, pour elle, ça se mangeait. Elle se fiait non pas à ses yeux, mais à ses seuls doigts pour trouver de quoi se nourrir. Déchets de rations de survie, restes de colis envoyés avec les bons baisers de maman et plein de gâteaux au chocolat qui tombaient en miettes, de biscuits, de fruits. Une orange, désormais toute molle et noire de pourriture, se trouve juste devant ses doigts. Elle cherche à l'attraper. Ma relève arrive, voit sa main et secoue la tête en souriant. Au moment où il s'approche d'elle, elle se redresse. Et dans ce qui apparaît comme un geste rapide, voire machinal, elle dit quelque chose en coréen, ça ressemble à « miam miam ». Elle sourit, tend la main vers l'entrejambe du soldat et le touche. Ça le surprend. « Miam miam ». Dès que mon regard passe de sa main à son visage, que je vois les deux dents qui manquent, le rideau de cheveux noirs au-dessus d'yeux affamés, il la flingue. Il ne reste que sa main parmi les ordures, cramponnée à son trésor, une orange tavelée en train de pourrir.
Lie away, safe in my arms. Till your daddy and your mama protect you.
Extrait 8, La confession de Franck.
And keep you safe from harm.
Il faut que je vous dise quelque chose tout de suite. Il faut que je vous dise toute la vérité. Je vous ai menti et je me suis menti. Je vous l'ai caché parce que je me le suis caché. Je me sentais tellement fière de pleurer mes amis disparus. Comme je les aimais. Comme je tenais à eux, les regretter. Mon chagrin était si dense qu'il a entièrement dissimulé ma honte. Ensuite, Si m'a dit avoir vu un bébé. Une petite fille sourire dans toute la maison, dans les airs, les nuages. J'ai compris d'un coup. Peut-être que cette petite fille n'attendait pas que Si la mette au monde. Peut-être qu'elle était déjà morte et qu'elle attendait que je m'avance pour dire comment. C'est moi qui ai tiré au visage de la Coréenne. C'est moi qu'elle a touché. C'est moi qui l'ai vue sourire. C'est à moi qu'elle a dit « miam miam ». C'est moi qu'elle a excité, une enfant. Une toute petite fille, je n'ai pas réfléchi, pas eu besoin, valait mieux qu'elle meure. Comment pouvais-je la laisser vivre une fois qu'elle m'avait emmenée dans un lieu dont je ne savais pas qu'il était en moi? Comment pouvais-je m'aimer, voire être moi-même, si je capitulais face à cet endroit où je baisse la fermeture de ma braguette et la laisse me goûter immédiatement? Et encore le lendemain, et le surlendemain, aussi longtemps qu'elle est venue fouiller dans nos ordures. C'est quel genre d'homme, ça? Et quel genre d'homme croit pouvoir jamais payer, durant sa vie, le prix de cette orange? Vous pouvez continuer à écrire, mais je crois que vous devriez savoir ce qui est vrai.
And keep you safe from home, brown.
Extrait 9, Sauver sa sœur.
It makes me glad
Ses yeux, vides qui attendaient, toujours qui attendaient. Non pas patient, non pas désespéré, mais incertain. Si, ma sœur, ma seule famille maintenant. Quand vous l'écrirez, sachez ceci. Elle a été une ombre la plus grande partie de ma vie, une présence marquant sa propre absence ou peut-être la mienne. Qui suis-je sans elle, cette fillette mal nourrie aux yeux tristes qui attendait? Comme elle tremblait quand on s'était caché en voyant les pelles. Je couvrais son visage, ses yeux, en espérant qu'elle n'avait pas vu le pied qui dépassait de la tombe. La lettre disait « Elle mourra ». J'ai traîné Mike jusqu'à un abri et chassé les oiseaux, mais il est mort quand même. Je me suis accroché à lui, je lui ai parlé pendant une heure, mais il est mort quand même. J'ai étanché le sang qui a fini par suinter de l'endroit où le bras de Stuf aurait dû être. Ce bras, je l'ai retrouvé à environ 6 mètres et je lui ai donné, au cas où on pourrait le recoudre, il est mort quand même. Fini les gens que je n'ai pas sauvés. Fini regarder mourir les gens qui m'étaient proches. Fini. Et pas ma sœur. Impossible. C'est la première personne dont je me sois jamais chargé. Tout au fond d'elle-même vivait l'image secrète que j'avais de moi-même. Moi, bien fort, enchaîné au souvenir de ses chevaux et de l'enterrement d'un inconnu. Protéger si, trouver un chemin à travers l'herbe haute et sortir de cet endroit, n'avoir peur de rien, pas des serpents ni des vieillards insensés. Je me demande si le fait d'y arriver n'a pas été le germe enfoui de tout le reste. Dans mon cœur de petit garçon, je me sentais héroïque et je savais que, s'il nous trouvait ou s'il l'a touché, je serais prêt à tuer.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Extrait 10, de nouveau ensemble.
It's a new dawn, it's a new day.
Frères et sœurs glissèrent le cercueil aux couleurs pastel dans la tombe verticale. Lorsqu'elle fut recouverte de terre, Frank tira de sa poche le morceau de bois incrusté de sable et deux clous qu'il enfonça à l'aide d'une grosse pierre pour le fixer à l'arbre. Un clou se recourba et devint inutile, mais l'autre tint suffisamment pour exposer les mots que Frank avait peints sur l'écriteau en bois. « Ici se dresse un homme ». Je suis resté un long moment à contempler cet arbre. Il avait l'air tellement fort, tellement beau. Blessé pile en son milieu, mais vivant et bien portant. Si m'a touché l'épaule, légèrement. Franck, oui, viens mon frère. On rentre à la maison.
And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Alors, quelle est la place de Toni Morrison dans la littérature ?
Essentielle, au moins à deux égards. D'abord, celle fondamentale de l'engagement contre les oppressions raciales et sociales aux États-Unis. Et aussi, une forme d'écriture. Elle a une forme d'écriture qui agit comme un champ de l'expérience des Afro-Américains depuis l'esclavage jusqu'à nos jours.
Alors, 3 ans après sa mort, elle reste encore une icône aux États-Unis. Comment l'expliquer ?
Par son parcours personnel exemplaire, des parents modestes, une famille de 4 enfants, des parents qui poussent leurs enfants à étudier. C'est la seule afro-américaine de sa classe primaire. Elle fait des études en littérature prestigieuse, elle a une carrière d'enseignante à l'université. Enfin, après son divorce, elle élève seule ses 2 enfants.
Oui, et c'est peut-être aussi par ses engagements politiques.
Oui, politiques et sociaux. Elle s'engage auprès des minorités, et singulièrement les Afro-Américains, participent au combat féministe et intervient dans la vie politique. Auprès des démocrates, elle défend Clinton. Après l'affaire Lewinsky, elle appelle par 2 fois à voter pour Obama, qui la connaissait bien.
Enfin, elle est également une auteure multi-récompensée.
Oui, elle connaît le succès, d'abord populaire avec Beloved, paru en 1987, premier roman d'une trilogie inspiré de l'histoire vraie de Margaret Garner, esclave afro-américaine et succès critique avec le prix Pulitzer en 1988.
Et bien sûr, on n'oubliera pas le prix Nobel en 1993. Et il faut noter que c'est la 8e femme seulement à être récompensée pour ce prix Nobel et c'est la première autrice afro-américaine.
Oui, enfin, son œuvre demeure d'une très grande diversité de formes. Roman, donc, mais aussi essai, critique littéraire, du théâtre. Elle est même librettiste et éditrice.
Nul doute que Toni Morrison a marqué la littérature américaine.
Oui, alors deux mots sur l'habillage musical des lectures d'extraits de Home. Ça n'a pas été trop difficile, on peut dire même que ça allait de soi, comme une évidence, ce serait Nina Simone. Alors, la musicienne, auteure, compositrice, arrangeuse, chanteuse, Nina Simone et Toni Morrison se connaissaient en fait, elles étaient même amies. L'écrivaine ne manquait pas de rappeler le caractère assez difficile et changeant, intimidant même, de Nina Simone, mais considérait celle-ci comme une référence absolue. Elle m'a sauvé la vie. Pour d'autres jeunes noirs comme moi, elle nous a sauvé la vie, disait Toni Morrison. Parce que Nina Simone affirmait sur scène, dans ses textes, ses engagements radicaux, sa négritude. De plus, Toni Morrison aimait à dire que son écriture avait à voir avec la construction d'un morceau de jazz ou de blues. Et un de ses romans, paru en 1992, s'appelle d'ailleurs Jazz et se situe dans les années 1920, à la naissance du jazz. La vraie difficulté est venue du choix des morceaux de Nina Simone, tellement celle-ci a été créative, plus de 50 albums et des centaines de chansons enregistrées durant sa carrière qui va de 1954 à sa mort en 2003. Alors j'ai privilégié du coup les morceaux où s'exprime sa voix poignante, ses compositions sensibles et sa virtuosité au piano. En effet, Nina Simone a une formation classique et était même programmée pour devenir la première grande concertiste noire classique des États-Unis au début des années 1950, avant que les obstacles racistes, et il faut bien le dire, la nécessité de vivre, de payer un loyer et de se nourrir, ne l'entraîne dans les boîtes jazz de Philadelphie, où elle invente justement ce style si particulier, qui est un mélange de classique, de gospel, de jazz et de blues.
Merci Gérard.